Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Invitée politique, elle est candidate à la présidentielle, porte-parole de lutte ouvrière. Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, interview à suivre ensemble dans un instant. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau est avec nous. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir Sonia.
Et Guillaume Tabar, éditorialiste aux Échos. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Sonia.
Nous sommes donc à 20 jours du premier tour. À venir cette semaine, les précisions, le chiffrage autour du programme de Nicolas Sarkozy. Puis il y a eu aujourd'hui, Guillaume, dans le quotidien Le Monde, les confidences faites des journalistes de François Hollande lors de son déplacement en Outre-mer. Maintenant, on va le taper, expression lapidaire qui annonce un changement de ton dans la campagne.
Oui, alors, je crois qu'il faut d'une part quand même distinguer ce qui relève des propos de campagne et puis des confidences et des propos tenus en marge des déplacements avec des journalistes. À l'évidence, cette phrase était prononcée dans cet aparté avec les journalistes, ça n'a quand même pas le même statut qu'une déclaration officielle. Bon, mais il n'empêche, moi ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est qu'il y a une semaine, souvenez-vous, c'était Nicolas Sarkozy qui avait dit à propos de François Hollande « il est nul ». Et là, on avait eu des dizaines de communiqués indignés de tous les supporters de François Hollande, disant « comment c'est pas digne, comment on traite un candidat de nul ?» Et la petite phrase avait circulé pendant au moins 3-4 jours. J'ai l'impression que sur celle de François Hollande, on fait un peu moins de bruit. Alors pareil, là on a vu les communiqués des gens de l'UMP s'indigner de la même manière. Bon, dans les deux cas, on peut penser que c'est pas totalement au niveau de la campagne, mais une fois encore, il faut quand même distinguer l'expression publique des candidats de confidence en privé, et j'ai tendance à dire que si on ne permet plus aux candidats d'avoir une expression un peu plus relâchée lorsqu'ils sont dans une enceinte, non pas privée, mais en tout cas qui n'est pas une expression officielle, voilà, c'est-à-dire que les candidats, et je pense que Nathalie Arthaud pourra nous confirmer, ouais, ne sont pas non plus des machines, et ils ont besoin parfois de parler un peu plus
Nathalie
librement.
Arthaud, je crois qu'elle ne fait pas de confidence aux journalistes, ou pas encore.
Non, mais j'ai rien à cacher en même temps, donc vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus.
Vous vous méfiez de ce genre de petites phrases dans la campagne ?
Écoutez, ce genre de duel et de joute oratoire, honnêtement, je trouve que ça fait partie de tout un cirque électoral, effectivement, mais qui est déplacé. En tous les cas, le problème dans cette campagne, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre le chômage, pour combattre les bas salaires, les petites retraites, voilà. C'est quand même ça qu'on attend. Et en réalité, s'ils ne se prononcent pas là-dessus, ni l'un ni l'autre, c'est parce qu'ils sont incapables. Incapables de résoudre ces problèmes fondamentaux.
On va en parler ensemble. Guillaume Tabar, on l'a vu dans notre sujet. On lit et on dit que la campagne ne passionne pas les Français. Est-ce que c'est le cas ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, c'est vrai que le chiffre d'abstention annoncé est un peu inquiétant. On parle d'un chiffre de 32%. S'il était avéré, ce serait un record. Dernière fois qu'on avait une abstention très élevée à une présidentielle, c'était en 2002. Et en 2002, on sait le résultat du premier tour. Et ce qui inquiète, à mon avis, les candidats, bien sûr, on a toujours le droit au couplet sur le civisme, etc. Bon, mais d'abord, un chiffre d'abstention, il est oublié dès le lendemain d'une élection. Donc, à mon avis, ce qui inquiète les candidats, c'est qu'avec une abstention plus forte, donc une participation plus faible, mécaniquement, le pourcentage de suffrages exprimés bouge beaucoup plus rapidement. 1% sur 2/3 des électeurs, ça n'est pas la même chose que 1%, là je parle sur le contrôle de Jean-Luc Gombeau, ça n'est pas la même chose que 1% sur 80% des électeurs. Ce qui veut dire que si dans cette campagne et si dans les 3 dernières semaines, les écarts tendent à se resserrer, eh bien on ne saura pas exactement comment les mesurer et tout devient possible. Pour l'instant,
c'est un beau slogan de campagne,
voilà.
Ça.
Ensemble, c'est-à-dire les 10 candidats ensemble, tout devient possible si on ose dire. À ce jour, il ne semble pas y avoir de mystère sur la finale entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à 3 semaines du premier tour de 2002, Lionel Jospin avait encore une avance sur Jean-Marie Le Pen qui était de l'ordre de 6 à 8 points.
Nathalie Arthaud, comment vous expliquez ce désintérêt réel ou supposé des Français pour cette campagne ?
Parce que je crois quand même que beaucoup ont compris, y compris les vrais maîtres de la société, c'était les maîtres de l'économie. Voilà, c'est ce grand patronat, c'est les banquiers, c'est les financiers. Et que la réalité, c'est que les hommes politiques sont un peu des pantins et des marionnettes. Voilà,
vous ne vous sentez pas un peu responsable aussi ? Vous êtes candidate. Si on ne s'intéresse pas à la campagne, c'est qu'on ne s'intéresse pas non plus à la vôtre. Vous n'intéressez pas suffisamment ?
Mais vous savez, moi, je suis une petite voix. Vous aurez remarqué quand même dans cette campagne.
Ne dites pas ça.
Excusez-moi
quand même. Avec l'égalité des temps de parole, vous êtes partout, Nathalie
Arthaud. Oui, ça fait une semaine. Alors, vous voyez, ça ne peut pas contrebalancer ce qu'on a eu depuis des mois et des mois. Excusez-moi. Alors, moi, je crois que les gens sont effectivement conscients qu'il y a la crise, qu'il y a une politique du patronat qui, aujourd'hui, est un véritable rouleau compresseur, qui procède à des licenciements, mais alors incessants, qui compriment les salaires. Et les travailleurs se rendent bien compte que, face à ça, tous ceux qui veulent devenir le futur locataire de l'Élysée, eh bien, en réalité, ils n'y peuvent rien. Voilà. Donc, je crois que ça...
C'est le fatalisme.
Non, c'est pas le fatalisme, c'est le réalisme. Et le réalisme, c'est que justement, on peut se battre contre cette puissance-là. Mais sans doute autrement, avec
vous
les mobilisations collectives.
Justement,
absolument.
Guillaume Tabar, on poursuit notre analyse politique. Il y a aussi cette place du troisième homme. Elle est... rien n'est acquis à 20 jours du premier tour, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui tire son épingle du jeu.
Alors, pour l'instant, il y a un sondage, celui qu'on a connu ce week-end, le LH2 Yahoo, qui met Jean-Luc Mélenchon en troisième place. Dans tous les autres instituts, pour l'instant, ça reste Marine Le Pen qui est en troisième position. Donc, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est un peu le phénomène de cette campagne. J'allais dire presque un phénomène un peu irrationnel. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui prétend faire de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire se battre pour des idées. Et il est en fait... il profite aujourd'hui d'un effet de mode. Il y a incontestablement une mode Mélenchon. Et je ne suis pas sûr que tous ceux qui aujourd'hui...
Mais les modes, ça passe. Est-ce que celle-ci va passer?
Écoutez, il reste 3 semaines. Je veux dire que, c'est vrai que c'est régulier dans les campagnes présidentielles que l'on assiste à la montée en puissance d'un candidat et puis que d'un seul coup, la bulle éclate. Bon, souvenez-vous de Jean-Pierre Chevènement qui était monté au même niveau et puis qui était retombé très bas. Mais la redescente s'était faite beaucoup plus tôt dans la campagne. Là, c'est vrai qu'on a 3 semaines du scrutin. Jean-Luc Mélenchon semble avoir aujourd'hui un socle plus consolidé, mais je pense que mécaniquement, c'est-à-dire que s'il commence à menacer François Hollande, il risque d'avoir un réflexe de vote utile pour remonter François Hollande.
Bon. Nathalie Arthaud, vous espérez que cette bulle dont parle Guillaume Tabar, elle éclate et vous avez l'épingle pour la faire éclater ?
Non, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas mon adversaire, il n'est tout simplement pas sur le même terrain que le mien, il ne défend pas la même politique. Bon, moi je comprends que tous ceux qui sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui veulent absolument se raccrocher à l'idée, à l'illusion...
Vous avez dit de lui, c'est du Mitterrand réchauffé,
À l'illusion, je dirais, d'un bon gouvernement de gauche qui fasse à la place des travailleurs, eh bien écoutez, ils voteront pour lui. Nous disons que non, à chaque fois qu'on a eu ces espoirs-là, eh bien les travailleurs ont été déçus, voilà. Se sont retrouvés en réalité abandonnés et seuls, confrontés à leurs difficultés.
Comment vous analysez cette montée de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous ne dites pas finalement, et c'est votre point faible, que les candidats qui progressent sont ceux qui suscitent les passions, qui haranguent les foules, qui provoquent aussi du désir? Est-ce que ce n'est pas ça qui manque un petit peu dans cette campagne?
Écoutez, campagne Jean-Luc Mélenchon, c'est sûr qu'il est un bon marchand d'illusions. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ben heureusement que ce n'est pas votre adversaire, ce que vous dites ce soir.
Mais vous savez, Mitterrand avait fait à l'époque aussi, avait suscité beaucoup d'enthousiasme, avait beaucoup rassemblé et avait effectivement suscité beaucoup d'espoir. Et je crois que des millions de travailleurs l'ont vécu et se sont sentis trahis, se sont sentis effectivement tombés de haut quand effectivement le gouvernement Mitterrand a pris ce tournant de la rigueur et puis s'est comporté finalement comme n'importe quel patron en bloquant les salaires, en licenciant et même sur la fin en glorifiant même la bourse.
Alors la chronique économique, merci Guillaume, c'est avec Jean-Louis Gombeau. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Louis, cette semaine il y aura l'annonce donc du programme chiffré de Nicolas Sarkozy. Il a déjà quand même un peu levé le voile sur ce chiffrage.
Ah donc, il a annoncé le fameux chiffre de 115 milliards d'euros, l'effort à consentir d'ici à 2016 pour retourner à l'équilibre budgétaire. Le chiffre n'est pas un scoop. Ce qui est une nouveauté, c'est qu'il le prononce lui-même. On le connaît déjà depuis maintenant plusieurs semaines. Il se décompose en deux parties. 40 milliards de hausse d'impôts d'ici à 2007, 75 milliards d'économies sur les dépenses budgétaires. 40 milliards, c'est énorme, c'est quand même 2 points du PIB. 75 milliards, c'est encore plus énorme. On est à près de 4 points du PIB. Alors, on arrive maintenant dans le virage avant le premier tour, si on peut parler de virage avant un tour. Mais enfin, si on est devant cette dernière ligne droite, en tout cas. Et M. Sarkozy l'aborde sur cette question avec quand même, je crois, un double avantage. Un doublage, en tout cas, technique ou tactique. Le premier, c'est que, d'abord, ces hausses d'impôts, elles sont déjà votées. Pour la plupart, 32 milliards ont déjà été votés par le Parlement. Donc il peut dire, écoutez, mis à part 8 milliards, puisqu'il a fait un certain nombre de promesses depuis qu'il a fait ses hausses d'impôts dans ces 3 dernières semaines, il n'y aura donc pas de surprise. Et puis, il a un deuxième avantage, c'est les résultats budgétaires de l'année 2011, qui sont plus flatteurs que prévu, puisque le déficit a baissé plus que prévu. Il a grosso modo gagné 10 milliards par rapport à ce qui était prévu antérieurement. Et donc, d'une certaine façon, il peut dire, écoutez, ce que j'ai fait en 2011, je peux continuer à le faire d'ici à 2016. En quelque sorte, j'ai fait mes preuves, alors que ceux d'en face lui disent, oui, mais enfin, c'est votre bilan, alors que lui, il va dire, j'ai fait mes preuves en matière de rétablissement déficit budgétaire.
Programme chiffré. Donc, Nathalie Arthaud, votre programme est chiffré, c'est clair, net, précis, bouclé?
Très clair, très clair. 4,5 millions de chômeurs, Donc il faut créer 4,5 millions d'emplois. Voilà. On ne peut pas vivre avec moins de 1 700 euros. Donc il faut que les patrons versent des salaires.
Vous me donnez les chiffres de la réalité que je connais aussi. Mais combien vous coûteront, par exemple, les augmentations générales de salaire que vous demandez?
Écoutez, combien ça coûtera aux patrons? C'est la question que vous me posez. Eh bien, moi, je dois vous dire que ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que vous voyez, quand les patrons mettent quelqu'un, un salarié dehors, quand ils le mettent sur le carreau, est-ce qu'ils chiffrent ce que ça lui coûte? Est-ce qu'ils chiffrent ce que ça coûte, hein, ce que ça veut dire pour lui de ne plus pouvoir payer son loyer, peut-être ses traites sur sa maison, de perdre l'espoir de pouvoir payer des études à ses enfants? Ça, ils ne le chiffrent jamais. Hein. Tous les dégâts que ce grand patronat, que ces grands groupes sèment à l'échelle de tout le pays, ils ne le chiffrent
pas. Donc vous assumez ne pas chiffrer votre programme.
Nous ne chiffrons pas parce que, y compris moi, je suis bien convaincue, je sais pertinemment que la réalité, c'est que tous ces grands groupes, ils peuvent payer 1 700 euros, qu'ils peuvent aussi permettre à leurs sous-traitants et à leurs clients de payer. Donc l'argent, il existe. C'est une question en réalité de rapport de force.
Une parenthèse, la professeure d'économie que vous êtes, ça ne la dérange pas non plus de ne pas chiffrer, non?
Mais vous comprenez.
Vous n'avez pas la religion du chiffre, j'ai compris.
Non, mais surtout, si vous voulez, j'ai pas la religion du chantage qu'on nous fait tous les jours en nous expliquant qu'il y a plus d'argent dans la société et qu'il faut forcément que les travailleurs se serrent la ceinture. Parce que vous comprenez, des millions, on en trouve toujours, hein, pour garantir les dividendes, pour payer les actionnaires. Ça ne manque pas, pour verser aux banquiers aussi. Écoutez, en 24 heures, on a débloqué plusieurs centaines de milliards. Hein. Alors, vous voyez, là, on ne l'avait pas chiffré. C'était dans aucun programme. Eh bien, ils l'ont trouvé, l'argent. Alors, excusez-moi, mais quand les travailleurs revendiqueront par millions dans la rue qu'il faut effectivement des augmentations de salaire, un SMIC à 1 700 et créer des emplois, je suis convaincue qu'ils le trouveront. Mais pour ça, il faudra inverser le rapport de force. C'est ça la réalité.
Jean-Louis Gombeau, programme chiffré de Nicolas Sarkozy, celui de François Hollande l'a été depuis un certain temps. Il a aussi donné quelques précisions aujourd'hui, François Hollande, sur son programme devant un parterre de chefs d'entreprise. Est-ce qu'on en sait plus? Il y a eu quelques rectifications?
Alors, il y a des rectifications, je dirais, en permanence, et même de la part de M. Sarkozy ou de M. Hollande. D'abord, il y a ces 8 milliards. Il faut qu'il nous dise à la fin de la semaine où il va trouver ces 8 milliards. Alors déjà, Mme Pécresse a dit oui, mais il y a 4 milliards de niches fiscales. Il faut nous préciser lesquelles. Quant à François Hollande, il y a un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il annule, oui ou non, les hausses d'impôts d'ores et déjà votées? Parce que ça change beaucoup. Les hausses d'impôts, il a dit qu'il annulerait la hausse de la TVA. Mais les hausses d'impôts votées par l'actuelle majorité et qui doivent servir au rétablissement de l'équilibre budgétaire d'ici à 2016, c'est 32 milliards. Est-ce qu'il annule les 32 milliards ou ça s'ajoute? Alors, même par rapport à M. Sarkozy, M. Cahuzac dit, mais en fait, compte, ça ne tourne pas rond parce qu'il manque 25 milliards dans le chiffrage de M. Sarkozy. Donc, tout n'est effectivement pas clair. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, et ça ne dépend pas du tout de nos deux candidats, nos deux principaux candidats, c'est la croissance. Parce que tout repose sur l'idée qu'à partir de 2013, on va avoir une reprise de la croissance économique. Et là, c'est l'aléa, là, c'est la probabilité. Alors cela dit, s'il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de politique. Donc, en quelque sorte, il est bon quand même qu'on introduise un petit peu de politique, et en introduisant la croissance, on introduit aussi un petit peu d'espoir.
Je voyais sourire Nathalie Arthaud quand Jean-Louis parlait de croissance.
Oui, parce que vous voyez, y compris les chiffres que les uns ou les autres nous donnent, bah vous voyez, hein, tout ce qui est annoncé là sera en réalité conditionné à la croissance. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront élus,
qu'elle revienne la croissance.
Sûrement pas nous. Ah. Mais non.
Ah bah vous l'espérez quand même.
Non, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, elle ne revient pas, cette croissance, eh bien, ils reviendront sur toutes leurs promesses et ils nous expliqueront qu'ils ne peuvent pas s'engager, faire ce qu'ils avaient promis, parce qu'il n'y a pas la croissance, comme d'habitude.
Et vous, il faut pas de croissance pour votre programme, pour vos mesures, pour vos propositions concrètes?
Vous savez, même quand il y a la croissance, quand il y a la croissance des profits, pour les travailleurs, il n'y a pas la croissance de leur portefeuille et il n'y a pas la croissance de leur pouvoir d'achat. Parce que les travailleurs, même quand ça va bien dans cette économie, ils n'en tirent pas profit. Alors écoutez, nous sommes pour au moins obtenir ce qu'il y a d'ores et déjà. Aujourd'hui, il y a des profits, il y a des richesses de créer. Il faut que les travailleurs absolument revendiquent leur dû sans complexe.
Avant qu'on aborde d'autres questions d'actualité, Nathalie Arthaud, peut-être une question, Guillaume Tabar ou Jean-Louis Gombeau, sur le programme économique, sur l'aspect politique? À Nathalie Arthaud.
Si j'avais une question à poser, je dirais pourquoi vous mettez toujours le même sac les patrons? Entre le CAC 40 et le petit patron, c'est vrai que chez Total, on peut donner les 1 700 euros de SMIC. D'ailleurs, ils y sont déjà. Alors que dans les petites boîtes, ça me paraît un peu plus compliqué quand même.
Parce que j'ai lu dans le journal de M. Tabar, d'ailleurs, que
les échos, que
200 grandes entreprises en France, en réalité, contrôlaient, dominaient toute l'économie. Voilà. Et faisaient la pluie et le beau temps. Et imposaient leur diktat à toute l'économie. l'économie. Et c'est évidemment ces 200 entreprises qui aspirent l'ensemble des richesses. Alors évidemment, hein, elles prennent à la gorge, elles écrasent les plus petits, les moins puissants qu'eux. Ça, c'est sûr, ils savent très bien faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'eux, ils alignent des chiffres assez impressionnants, toujours et parfois même extravagants, quand on voit quand même les salaires des PDG ou quand on voit ce qu'ils versent à leurs actionnaires. Alors nous, nous sommes pour dire, eh bien l'argent, il faut le prendre là où il est dans ces groupes-là, et qu'on arrête de nous faire pleurer avec tous les petits. Vous comprenez, moi, je suis la première à dire que l'économie capitaliste, c'est la jungle, où les gros mangent les petits. Alors, je ne vais pas me mettre à me caler hein, sur les petits hein, des rapaces hein, en disant, bah oui, il faut les sauver eux et les travailleurs, ils peuvent crever. Non, moi je dis que les travailleurs, c'est la priorité évidemment d'assurer leurs conditions d'existence. Et il faut s'attaquer à ceux qui contrôlent l'économie.
Il y a donc, vous parlez des patrons et des entreprises, mais il y a aussi une part du financement de mesures que vous souhaitez qui est liée à l'État. Je pense par exemple, vous parlez de titulariser notamment tous les salariés précaires de la fonction publique. Oui. Vous parlez de revenir, je crois, à l'âge de la retraite à 60 ans à taux plein pour tout le monde, donc y compris.
Ça, c'est pas l'État, ça, c'est les cotisations sociales, c'est une partie du salaire.
Oui, mais enfin, notamment pour les fonctionnaires de la fonction publique, pour la couverture aussi d'un certain nombre de frais liés à la santé, etc. Là, il y a de l'argent que l'État lui-même doit trouver.
Donc, oui, bien sûr.
Et ça, c'est pas les entreprises qui vont vous le trouver, cet argent-là.
Ah, mais je pense que l'État doit le trouver dans quelle poche ? Bah, là où il y a l'argent, dans la poche des entreprises, évidemment. Moi, je suis pour augmenter les impôts des entreprises, de tous ceux qui vivent bah, des revenus de l'exploitation, hein, de tous ceux, voilà, les impôts sur le capital. Et je suis pour, évidemment, qu'on arrête, y compris toutes les dépenses publiques qui vont dans la poche des plus riches. Parce que, excusez-moi, mais cette dette dont on parle beaucoup et qui a effectivement augmenté de 500 milliards hein, depuis que la crise a éclaté, excusez-moi, mais elle a été faite exclusivement au profit, effectivement, des banquiers et des grands groupes industriels, la prime à la casse, y compris le chômage partiel. Regardez combien ça nous coûte chaque année, hein, le chômage partiel, qu'on donne encore là au groupe automobile. Donc, pour arrêter ces dépenses-là et pour qu'effectivement l'argent rentre dans les caisses publiques et pas dans le sens inverse.
Autre question d'actualité, Nathalie Arthaud. Plusieurs questions ce soir. Il y a quelques jours, il y a eu un coup de filet d'islamistes radicaux. Ce soir, Claude Guéant annonce l'expulsion de plusieurs imams radicaux. Le gouvernement entend mener, je cite, une lutte acharnée contre le terrorisme fondamentaliste. C'est une bonne chose.
Écoutez, là, franchement, on voit bien la manipulation politique. Voilà, ils sont en train d'exploiter.
Ils n'existent
pas, gouvernement...
ces gens qui sont arrêtés ?
Oui, mais ils existaient avant. Hein, ils étaient là, ils étaient connus, ils étaient, voilà, y compris ceux qui ont été arrêtés, les 17. On va voir si demain ils restent en garde à vue ou s'ils sont libérés. Quelles sont les charges contre eux ? On va voir. Écoutez, tout ça, ça sent à plein nez l'exploitation politique d'un drame qui a été terrible, qui a été effectivement et qui a touché l'ensemble du pays. Et je trouve ça assez odieux au final, assez abject. Bah oui, de se servir de ce qui s'est passé, de se servir bah, de ça, hein, de ce drame pour les besoins d'une campagne. Il s'agit évidemment pour Nicolas Sarkozy de montrer hein, aux électeurs du Front National eh bien, que lui, il agit. Voilà. Que lui, ce n'est pas des mots. Marine Le Pen, c'est des mots. Bah, lui, il agit.
Nathalie Arthaud, il ne faut pas agir ?
Écoutez, je crois que là, il est en train de créer artificiellement un danger. Voilà. Hein, bah oui, parce que, ils s'emparent de ce qu'ils peuvent. Hein, ils s'emparent de ce qu'ils peuvent. Mais rien n'indique, ni d'ailleurs les services même de renseignement et ni même les spécialistes, qu'il y a une remontée du danger fondamentaliste en France.
Certains experts qui se sont succédés sur les plateaux de télévision l'ont dit.
Du danger terroriste, ça c'est pas vrai. Tout le monde a dit que les réseaux d'Al-Qaïda, que les réseaux terroristes étaient au contraire en train
Oui, pour le groupe, moins pour le terrorisme individuel. Merci. Voilà. Beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Jean-Luc Gombeau et merci beaucoup Guillaume Tabar. La suite du 20...